VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. Cour pénale internationale de la Haye, les audiences sur la demande d'acquittement de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale reprendront en novembre. La défense a obtenu mercredi un délai pour préparer sa plaidoirie. Nani Talani.
Les audiences devant la Cour pénale internationale sur la demande d'acquittement étaient prévues jusqu'à demain vendredi. Lors de l'ouverture des plaidoiries hier, la défense a formulé le souhait de bénéficier d'un délai afin de pouvoir répondre à tous les arguments de l'accusation. Après plus de 2 ans de procès, la défense estime que les éléments de l'accusation sont insuffisants pour prouver les charges au-delà de tout doute raisonnable et réclame un non-lieu total. Les demandes sont similaires dans le camp de Charles Blégoudé, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes fidèles à l'ancien président qui est lui aussi jugé à la Haye. Le juge a accepté d'accorder du temps aux avocats des deux accusés afin de leur permettre de bien préparer leur défense. Les audiences reprendront le 12 novembre et se tiendront jusqu'au 20 novembre.
Au Libéria, la Banque centrale assure que des billets de dollars libériens imprimés à l'étranger pour un montant d'une centaine de millions de dollars américains ont bel et bien été placés dans ses réserves, démentant ainsi la polémique sur des conteneurs de billets portés disparus. Plus de détails avec Morgan Guiriec.
Nathaniel Patrae, gouverneur de la Banque centrale, assure qu'il ne manque pas 102 millions de dollars américains dans ses caisses. Selon lui, les livres de compte de la Banque centrale et de la société suédoise Crane Currency, 15,5 milliards de dollars libériens, ont été imprimés pendant la période de 2016-2018 et bien placés dans les coffres de la Banque centrale du Libéria. Des informations dans la presse et sur les réseaux sociaux avaient fait état de la disparition pure et simple de conteneurs et de sacs de billets entre le port, l'aéroport et la banque centrale. Le ministre de l'Information, Len Eugène Nagbe, avait indiqué que le gouvernement n'avait pas été informé de l'arrivée de ces billets. Le président George Weah avait fait ouvrir une enquête et demandé l'aide du FBI américain. 35 employés ou ex-employés de la Banque centrale, dont son ancien gouverneur Milton Weeks et un fils de Madame Sirleaf, ont été interdits de sortie du territoire.
Élection au Gabon, quelques 680 000 électeurs sont appelés à voter samedi à des élections législatives et locales. Premier scrutin national depuis la présidentielle de 2016, marqué par la violence et la contestation. Dans les rues de Libreville, aucune effervescence pour la campagne en cours. Seules quelques affiches rappellent que des législatives auront lieu pour renouveler l'Assemblée de 143 députés. 2 ans après la présidentielle, les divisions politiques se sont renforcées. Les Gabonais sont plutôt désabusés. Selon le politologue gabonais Wilson André Ndombe, les élections du week-end, par 3 fois repoussées depuis 2016, devraient se dérouler sans violence majeure, mais avec un fort absentéisme. Rappelons qu'en août 2016, la réélection contestée du président Ali Bongo Ondimba face à son challenger Jean Ping avait entraîné des manifestations suivies de violences meurtrières. En République démocratique du Congo, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a des consultations ce jeudi avec les 21 candidats à la présidence. Objectif, évaluer le processus électoral avec en ligne de mire l'utilisation de la machine à voter lors des scrutins du 23 décembre. Un choix qui divise toujours la classe politique congolaise. Le point avec Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Il sera question de l'évaluation du processus électoral à 2 mois et demi des élections. La machine à voter, outil informatique à l'usage duquel la CENI conditionne la tenue des élections le 23 décembre prochain, divise toujours la classe politique entre d'une part l'opposition qui en exige le retrait et de l'autre la coalition au pouvoir et la CENI favorable à cette machine. L'autre point d'achoppement, c'est le nombre élevé, plus de 10 millions d'enrôlés sans empreinte digitale. L'opposition, là encore, exige le retrait du fichier électoral, ce qui n'est pas du goût de la centrale électorale. Cette réunion entre la CENI et les candidats présidents de la République intervient alors qu'est attendue ce même jeudi à Kinshasa une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies qui sera en visite officielle et se penchera notamment sur l'organisation des élections. Kinshasa, Thierry Kamundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
À noter que les États-Unis ne seront représentés dans cette délégation du Conseil de sécurité que par un chef de cabinet adjoint de la mission américaine à l'ONU. En juillet, l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley, n'avait pas eu de feu vert de Kinshasa pour se rendre à nouveau dans le pays après un premier déplacement en 2017, selon des diplomates.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Politique au Congo-Brazzaville, le général Ferdinand Bahou, 62 ans, farouche, opposant au président congolais Denis Sassou Nguesso, dénonce le classement sans suite de la plainte qu'il avait déposée en 2015 après avoir été grièvement blessé dans une tentative d'assassinat en France. Pour des explications sur cette affaire, Nicolas Pino a joint maître Vincent Brengaut, l'avocat du général Mbaou, qui vit en exil en France.
C'est une décision vers laquelle on se dirigeait un peu compte tenu des difficultés que peuvent rencontrer les enquêteurs pour identifier l'auteur de cette tentative d'assassinat. Maintenant, ça ne veut absolument pas dire que la procédure est terminée puisque M. Mbaou a mandaté un collectif d'avocats dont je fais partie avec également mon confrère Henri Tulliez et mon confrère Norbert Tricot pour nous constituer partie civile devant une juridiction d'instruction de Pontoise, autrement dit pour demander la désignation d'un magistrat instructeur qui reprendra l'intégralité du dossier et fera d'autres actes d'enquête.
Est-ce qu'aujourd'hui, le général Mbaou craint encore pour sa vie ?
Il craint encore pour sa vie puisqu'il y a maintenant quelques mois, une nouvelle tentative d'assassinat a été déjouée. Elle fait l'objet d'une information judiciaire qui a été ouverte auprès de la juridiction d'instruction de Lyon. Donc c'est un dossier pour lequel on attend des réponses. Il y a plusieurs personnes qui ont été mises en examen. Ce sont les informations dont on dispose pour l'instant. Ce sont d'anciens membres des services de renseignement français, puisque ce sont d'anciens membres de la DGSE. C'est suffisamment sérieux. Si l'ouverture d'une information judiciaire, ça montre bien qu'il y avait une menace réelle et qui malheureusement est un peu en répétition par rapport à celle qu'il a déjà connue en novembre 2015. C'est pour ça que d'une part, évidemment, il nous a mandaté pour qu'on prenne toutes les initiatives juridiques pour nous constituer dans ces dossiers, mais aussi pour qu'on alerte le ministère de l'Intérieur sur les risques qui pèsent aujourd'hui sur son intégrité physique.
Qui aurait intérêt à faire taire le général Mbaou et pourquoi ?
Écoutez, je pense qu'il est encore tôt pour le dire parce que ce sont des informations judiciaires qui sont en cours. Il y aura des actes d'investigation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un contexte politique qui apparaît un peu manifeste puisque M. Mbaou, c'est un opposant au régime de M. Sassou Nguesso. C'est pas n'importe quel individu puisqu'il se trouve exilé en France et que, encore une fois, c'est la deuxième fois qu'il fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Donc ça nous donne malheureusement lieu de craindre qu'il y ait en effet potentiellement une nature et un lien politique avec ce qui lui est arrivé.
Maître Vincent Brengaut, avocat du général congolais Ferdinand Mbaou, en exil en France. Afrique australe maintenant, au Mozambique, deuxième jour du procès de près de 200 personnes dont de nombreux étrangers soupçonnés d'appartenir à un groupe islamiste qui sème la terreur depuis près d'un an. Les audiences ont commencé hier dans la prison de haute sécurité de Pemba, Irénée Amanumbo.
Ils sont au total 189 accusés en majorité du Mozambique, mais aussi de la Tanzanie, la République démocratique du Congo, la Somalie et du Burundi, réunis dans la cour de la prison de Pemba. À l'ouverture des audiences, le procureur a dressé la longue liste des charges retenues contre eux. Homicide, association de malfaiteurs, crime contre la sécurité de l'État ou incitation à la désobéissance civile. Selon le procureur, ils sont poursuivis pour l'attaque du poste de police et la caserne de la ville de Mokimbao d'Apraia en octobre 2017, la première opération attribuée à un groupe désigné sous le nom de Al-Shabaab qui signifie « les jeunes » en langue arabe. Depuis près d'un an, la province de Cabo Delgado dans l'extrême nord du Mozambique est le théâtre d'attaques meurtrières conduites par un groupe de jeunes hostiles au gouvernement. Ils ont attaqué de nombreux villages de cette région à majorité musulmane et tuant plus d'une cinquantaine de civils.
Actualité aux États-Unis pour terminer. Washington a décidé de mettre fin au traité d'amitié de 1955 entre les États-Unis et l'Iran. Téhéran n'apprécie pas du tout cette décision. Abdourahman Dia.
La décision de Washington intervient à la suite de celle de la Cour internationale de justice demandant aux États-Unis de suspendre les sanctions contre l'Iran visant des biens à des fins humanitaires. Aujourd'hui, les États-Unis se sont retirés du traité américano-iranien après que la CIJ leur a ordonné d'arrêter de violer ce traité en punissant le peuple iranien. Régime hors la loi, a écrit le chef de la diplomatie iranienne, Mohamed Zarif, sur Twitter.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.